On va déguster en vadrouille en ce dimanche. Je suis au sud de Paris, pas très loin de la place d'Enfer Rochereau. Rue Boulard au numéro 31, devant une très belle façade de bistrot. Tiens, salut Gagnès.
Comment ça va, Gaudry?
Jérôme Gagnès, comment ça va?
Ça va très bien.
Bon, tu m'accompagnes dans cette aventure aujourd'hui?
Ouais, j'ai un chandail rouge pour Noël.
Et quelques bouteilles?
Il y en a quelques-unes, oui.
Déborah.
Bonjour.
Comment ça va?
Moi aussi, je suis en rouge. Comme d'habitude, j'apporte le dessert.
Ah, magnifique, le dessert.
Oh, il y a Monsieur Delmas.
Ben, bonjour les amis. Je suis là aussi. Oui, moi je passe souvent dans cette rue Boulard.
Tu veux vraiment ton rond de serviette dans l'émission On va déguster?
Oui, absolument. S'il vous plaît.
Et là, je peux vous dire que je vous emmène, vous le connaissez tous, mais bon, dans un sacré lieu de plaisir.
Absolument.
J'espère que vous avez l'estomac bien préparé. On y va?
Oui.
Venez les amis.
Bonjour.
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 Comment ça va?
Bonjour, bienvenue. Bonjour. À mi-chemin.
Bonjour Virginie, bonjour Nordine.
Bonjour Régis, bonjour, bienvenue.
Merci
bonjour.
Pour votre accueil.
Je suis content que vous soyez là.
Donc on est à mi-chemin et il paraît que notre émission de Noël, on va la passer avec vous.
Allez, on va au petit salon.
Parce qu'il y a un bistrot dans la première partie et il y a la coulisse du restaurant, un petit salon à la parisienne, juste derrière.
Mais avec plein de livres en plus.
Avec des livres, avec des tableaux au mur, des cartes marines.
Mes amis, installez-vous,
voilà,
prenez
table.
Place.
Nordine,
super.
Voilà.
Bienvenue.
Merci Nordine.
Allez,
bon, on s'installe.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Un plateau qui a exceptionnellement bougé. Nous ne sommes plus à la maison de la radio, mais comme l'exige la tradition chaque année avant Noël, on s'autorise une petite sortie dans un authentique lieu de plaisir, le lieu de Virginie et Nordine Labiade, à mi-chemin, un bistrot qui fait beaucoup parler de lui à Paris. Nordine.
Bonjour François-Régis, bonjour France Inter, bienvenue.
On est dans un très joli lieu, beaucoup de livres, des bibelots, des cartes. Une vraie belle ambiance à la fois conviviale, chaleureuse.
Comme à la maison, mais on s'occupe de vous.
Et on va vraiment se régaler. S'il fallait définir le bistrot à mi-chemin pour ceux de nos auditeurs qui n'ont jamais entendu parler de cet établissement, comment on pourrait le définir, Nordine?
À mi-chemin, il rassemblerait, comme aujourd'hui, un autre couple, Virginie, qui a monté ses bistrots en 1998 pour l'ouverture du Coupe du Monde. Et il m'a attendu en 2000, je suis arrivé pour fêter les réveillons avec Virginie, je restais. Et du coup, ça fait ça. C'est ça, à mi-chemin.
Un lieu à égale distance, en quelque sorte, entre un pays d'origine, un pays d'adoption, avec une démarche culinaire très ouverte, à la fois très française, et puis également ouverte aux influences du pays natal.
La Tunisie, et tout cet trajet entre le nord et le sud, et moi ça me fait nourrir. J'ai l'impression d'être tout le temps quelque part. Quand je suis là, je suis en Bretagne, et quand je suis en Bretagne, je suis en Tunisie, quand je suis en Corse, je suis à Paris, et on bouge avec nos souvenirs, on essaie de bouger les gens avec nous, et apparemment, ils adorent.
Et on va voir que ça donne une sacrée identité culinaire dans l'assiette, c'est ce qu'on va constater tout au long de cette émission. Je suis accompagné de Laurent Delmas, Jérôme Gagnès et Déborah Dupont. Ça va les amis, vous êtes en forme?
En pleine forme.
En pleine forme, oui, on est prêt.
Laurent Delmas, au menu.
Alors, trois mots. Boutargue, Mouria, Depardieu. Il n'y a pas d'erreur.
Ah oui, alors là, sacré cocktail, hein, quand même. Jérôme Gagnès.
Un Hidalgo provençal.
Déborah Dupont.
Crème au beurre, bien évidemment.
Crème au beurre, impeccable. C'est Laurent Thomas qui réalise l'émission avec Thibaut Nassimben et Arthur Dumont. Margot Page à la préparation et l'animation de notre page internet. Djoubaka pour la programmation musicale. Juste avant d'activer nos mandibules, de mettre nos glandes salivaires en surchauffe, j'ai un petit coup de cœur télé à vous faire partager.
Nous autres Français, nous nous flattons de posséder la meilleure cuisine du monde. En tout cas, les chiffres sont formels. Nous sommes bien les champions, tous pays confondus, pour le temps passé à table. 2h11 par jour. Dans ce domaine, on bat l'Italie. On est champion, on est champion.
On connaissait François Morel sur le grand écran, François Morel sur les planches. François Morel au micro de France Inter, François Morel dans ses écrits, mais on avait un peu moins l'habitude de François Morel en conteur drôle, émouvant et facétieux d'un documentaire événement qui sera diffusé sur France 5 ce mercredi 23 décembre, vraiment dans 3 jours à 20h50. La France au fourneau, c'est son titre. Eh bien, c'est un film qui raconte 60 ans d'histoire de France, de l'après-guerre à nos jours, par le prisme des casseroles, de la bouffe, de la table, en avant-première, un petit avant-goût de ce documentaire.
Mais comment sommes-nous passés du cassoulet de Tata Gisèle au tofu mariné de Jean Kevin? De la blanquette de veau à l'œuf moléculaire. Depuis les années 50, côté cuisine, nos habitudes ont bien changé. Nous avons allégé nos sauces, c'est pas une expression, écrémé nos plats, découvert d'autres cultures.
Et la grande force de ce film qui dure 1h30, c'est la richesse et la diversité des archives. Lina est d'ailleurs coproducteur de ce documentaire. Tout y passe. Les réclames des années 50, les émissions télé, des extraits de films, des reportages de l'époque. Autant d'archives qui sont racontées, commentées par François Morel et qui permettent de revivre les révolutions et les évolutions de notre façon de manger, de notre rapport à la table, avec vraiment, alors là, des moments d'anthologie, et notamment des archives que moi, je n'avais personnellement jamais vues. On déguste avec gourmandise ou effroi, c'est selon les pubs des années 50 qui vantent l'arrivée de l'électroménager, de la vaisselle Duralex et du Formica dans nos cuisines. Le reportage du tout premier restaurant d'autoroute lancé par...
Jacques Borel.
Très bien, à la fin des années 60.
À Nemours.
Les premiers pas, absolument, à Nemours, tout à fait. Les premiers pas de Michel Guérard, le chantre de la cuisine minceur sur TF1 dans les années 70, l'irruption du néologisme malbouffe. Vous saviez qui l'avait inventé?
Non.
Joël de Ronay. Il était sur le plateau d'Apostrophe dans un livre devenu best-seller à partir de 1979. Le fameux « C'est de la merde » de
Jean-Pierre Coff.
Bravo. Lancé sur quelle chaîne?
Sur Canal+. Plus.
Très bien. En 1984.
Qu'est-ce qu'on gagne?
Non, 92, rien du tout. Bref, vraiment, La France au fourneau, un documentaire riche, dense, truffé d'anecdotes, qui montre une fois de plus et de façon assez magistrale que la grille de lecture de la table permet de comprendre dans notre histoire récente, celle des Trente Glorieuses, notre rapport au progrès, à la modernité, le statut des femmes dans notre société, le poids croissant de l'industrie dans notre alimentation. Et c'est en même temps un beau film, joyeux, plein de nostalgie, qui fleure bon la blanquette de veau et qui met carrément en appétit. Voilà, La France au fourneau, réalisé par Guylaine Schwegler, raconté par un François Morel au mieux de sa forme. Et c'est le 23 décembre à 20h50 sur France 5. Vous connaissez François Morel ou pas, Nordine Labia?
François Morel a déjà mangé ici. On a l'habitude d'écouter François Morel le matin, mais là, les soirs, on est prêt.
Comme disait François Morel tout à l'heure dans son extrait, la richesse de notre patrimoine gastronomique, c'est d'avoir été nourri tout au long de son histoire par des échanges avec d'autres civilisations. Et la gastronomie française, on va le voir, est tout sauf un patrimoine en vase clos. C'est ce qu'on va voir juste après avec une très grande nouvelle que va nous annoncer Nordine Labia. C'est juste après le nouveau titre de Delgrès, un groupe de blues créole, Quatet Matin, sur France Inter.
Catch it,
déguster à la table d'À mi-chemin, le bistrot de Virginie et Nordine Labiat, Paris 14e. Et Nordine, vous avez une grande nouvelle à nous annoncer.
Ça y est, le couscous est nommé au patrimoine mondial et immatériel de l'UNESCO.
C'est ça, on l'a entendu effectivement cette semaine. Le couscous vient d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors c'est une victoire pour la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie qui ont présenté conjointement un dossier à l'UNESCO.
Ce qui est une première, hein, ils n'ont jamais présenté quoi que ce soit ces quatre pays-là ensemble. Et c'est la première fois qu'ils se réunissent autour d'un sujet, le couscous.
Incroyable, mais on peut dire aussi que c'est une victoire pour tous les amateurs de couscous. Notamment en France où le couscous, selon tous les classements, est toujours dans le peloton de tête des plats préférés des Français, pas très loin de la blanquette, du bœuf bourguignon, du steak frites. Vous êtes heureux, Nordine ?
Oui, bah, c'est une victoire. J'ai défendu un couscous pour tous et là, je suis heureux.
Et vous êtes d'autant plus heureux que les planètes sont alignées,
oui.
Puisque vous avez signé chez Solar un livre dont on entend beaucoup parler, qui est très médiatisé et qui a beaucoup de succès en librairie. Couscous pour tous, royal ou tout simple, froid ou revisité, sans recette de couscous à la portée de tous. Ça, c'était vraiment l'idée première de ce bouquin, c'est de démocratiser ce plat qui, a priori, peut sembler assez inatteignable pour le commun des mortels.
Oui, ce plat a beaucoup souffert, un plat qu'on aime beaucoup, mais il a souffert de cette image, un couscous pas cher, un couscous. Et moi, je voulais rendre au couscous sa place dans une carte bistronomique française, ou le rendre tout cet amour qu'il nous donne. Et en plus, les démocratiser, faciliter le fait de faire un couscous. On y va, on fait un couscous, comme danser. On danse, on verra, on se prend de plaisir. Donc, avec le couscous, je voulais la même chose.
Nordine, là, bien, on vous connaît bien, notamment avec l'ami Delmas, qui est à ma droite. On vient depuis longtemps au bistrot à mi-chemin. Vous n'avez pas toujours été aussi serein par rapport à ce couscous que vous avez même un peu caché comme une maladie honteuse. Vous avez fait votre cooking out, je crois, sur le couscous.
C'est vrai, avant le couscous, j'étais pas très fier de le servir.
Et pourquoi ?
Le couscous, pour moi, c'était comme un instrument de musique que je joue pour les copains, pour les amis, pour les intimes intimes. Et j'ai mesuré l'amour des Français pour le couscous. Donc, je voulais faire un couscous qui rend cet amour aux Français.
C'est un peu le premier confinement qui a en quelque sorte déconfiné votre couscous, Nordine.
Oui.
Comment ça s'est passé ?
Virginie m'a dit, on ne peut pas rester à la maison, il faut qu'on fasse à manger. Les hôpitaux, les associations, les voisins, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, j'ai dit un couscous, il m'a dit, c'est pas vrai. Mais...
Ah oui. Non, parce que pour situer la cuisine de Nordine pour nos auditeurs, avant le couscous, on était loin du couscous en quelque sorte. On était sur une très belle bistronomie parisienne avec des produits majoritairement français, quelques influences orientales.
Oui.
Mais on était d'abord sur une bistronomie authentiquement parisienne et reconnue comme telle.
Oui, et ça continue. Mais le couscous, elle a pris, ça continuera, c'est mon identité, et l'identité de Virginie, elle sera tout le temps. Mais le couscous, elle a pris sa place. J'étais heureux de le servir, ça me semblait utile que je serve le couscous, et c'est un plat qui a réuni les gens. Et en plus, les gens qui étaient seuls pendant le confinement, ils étaient pas seuls, ils étaient face à un couscous. Et j'étais vraiment, franchement, ça reste la plus belle période de cuisine de ma vie. C'est le premier confinement. Je me suis pris un plaisir avec Virginie à épicher les carottes, à servir 15 couscous, 10, 20, et tous les jours.
Avec beaucoup de succès à la clé.
Oui, merci.
Cher Nordine, dans votre livre Couscous pour tous, on a vraiment une vision très ouverte, décomplexée, voire un peu créative du couscous. Alors on trouve le couscous à la royale, le fameux couscous boulette, il y a quand même des figures imposées, le couscous au poulpe, qui est peut-être bien l'un de vos plats signatures à mi-chemin, mais aussi des versions un peu fantasques ou créatives. Un couscous au caviar, un friquet au haddock, et page 181. Il y a cette recette qui m'intrigue beaucoup, que moi j'ai eu la chance de déguster il y a déjà quelques années. C'est une espèce de couscous qui adopterait une forme un peu sphérique. Un plat du pauvre tunisien, c'est ça ?
Oui, le couscous aux boulettes aux herbes.
C'est même pas le couscous aux boulettes, c'est plus les...
C'est les boulettes.
C'est les boulettes au couscous.
Voilà, il n'y a que les boulettes, il y a des herbes.
Avec un petit lit de couscous.
On l'appelle ça, c'est les boulettes du pauvre ou les boulettes des veuves.
Des veuves.
Voilà.
Et pourquoi ?
Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter de la viande.
Donc c'est vraiment un plat de la cucina povera à la tunisienne.
Ouais, complètement. On s'arrange à la fin de la journée de ramasser tous les herbes sauvages, garder tous les fans des carottes, des navets, de l'oignon, tout haché, mettre une œuf, salé, poivré, un bout de gras si on a ou il n'y a pas. Et on met ça, on tourne ça en boulette et on le cuit en haut de la couscoussière. Dans la semoule, on n'a que ça,
et comme,
c'est mon préféré.
Et comme par magie, ces boulettes, puisque là on s'adresse quand même à une spécialiste, hein, Déborah, on rappelle qu'elle a signé
ravie d'avoir de la boulette,
un livre magnifique sur le sujet aux éditions First. Boulette ?
Oui, mais Boulette.
Vous auriez pu demander à Nordine les siennes ?
Effectivement, j'aurais pu demander à Nordine, mais c'est vrai que dans son livre, il y a énormément de recettes de couscous avec boulette, en fait.
Oui,
c'est
ça. Boulette aux sardines. Ouais.
Alors, je propose que Déborah soit la première à déguster ces boulettes du pauvre aux herbes uniquement. C'est ça qui est intéressant. Comme par magie, elles ont roulé jusqu'à notre table.
Et les boulettes, elles ont cuit dans la semoule. Elles sont intérieures, il ne faut pas les casser. Elles sont toutes tendres. Et la semoule s'est teinte un peu en vert avec un peu d'huile d'olive qu'il y a. Et pour ces boulettes, pour l'amener à un voyage vers le sud, j'ai fait un petit vinaigrette, pignon de pain, capre, anchois et huile d'olive.
Génial. Alors, Déborah ?
C'est excessivement parfumé.
Ouais.
J'adore.
Mais on croirait vraiment qu'il y a de la viande, hein, à l'aveugle, enfin sans savoir ce qu'il y a dedans, c'est incroyable parce que tellement
la
c'est, il y a de la mâche.
La texture est charnue.
Et la texture est charnue, c'est incroyable. C'est un résultat vraiment tout à fait étonnant. C'est presque à devenir végétarien.
Alors sans aller jusque-là, parce qu'avant de devenir végétarien, il va quand même se passer de l'eau sous les ponts, mais en revanche, il faut connaître que c'est admirablement parfumé et c'est très bien assaisonné. Cette vinaigrette, elle apporte à la fois la fraîcheur, un peu d'humidité.
Et de la mer.
Oui.
Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment se tient cette boulette. C'est l'œuf qui fait le lien ?
Et les coupages. Comment on taille nos herbes ? Toutes les herbes qui sont comme les blettes et tout, on va tailler très très fin. Et pour les herbes qui sont très fines, la ciboulette, l'aneth, les sœurfeuilles, les fins des carottes, on va laisser long, genre 3 cm, et du coup, ils vont faire les ciments.
Une pelote.
Cette boulette, voilà.
En quelque sorte.
Ça va tenir, voilà.
Waouh, extraordinaire. C'est bon, hein?
Ah, c'est très, très bon.
On commence vraiment sur des bases élevées, et la recette est à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Déborah?
On sent aussi que la cuisson est à la vapeur.
Oui.
Parce que ça garde énormément de moelleux, en fait, et énormément d'humidité dans la boulette. C'est vrai qu'une boulette comme ça pourrait pas tenir au four.
Non. Et on a remis dans le bouillon en bas quand on n'a rien. On va mettre encore le reste des fans qu'on ne peut pas les tailler dans l'eau et ça va donc encore parfumer.
Ouais.
On vous a annoncé un déluge de saveurs pour cette émission de Noël dont on va déguster. Oui, ça commence sur des bases effectivement assez élevées. Et on va enchaîner par une petite surprise. Nordine, je crois que vous êtes obligé de nous emmener en cuisine.
On y va au fourneau.
On peut regarder, nous ?
Bien sûr. Venez. Allez, en cuisine ?
En cuisine.
Allez, go.
Ça, c'est un privilège, hein, quand même. Hein.
Dans les cuisines d'Amichouin, c'est là où tout s'invente et se transforme.
Les Saint-Jacques, hyper belles et pas grosses.
Ah, les belles noix, elles sont de Bretagne ou de Normandie ?
Elles sont de Normandie, de l'ami Emmanuel Marie.
Eh oui !
Des grandes villes, qui livrent elles-mêmes par camion. Et un petit texto, on va chercher pour les particuliers et pour les restaurateurs qui continuent à bricoler comme nous.
Et son bateau dans le Cotentin s'appelle la Petite Laura, Emmanuel Marie.
La Petite Laura, quel beau nom, j'adore. La plancha, elle est chaude. Et hop, et on va mettre nos Saint-Jacques comme ça, comme un barbecue.
Nordine, vous mettez directement la coquille. Vous laissez la noix dans la coquille et vous mettez la coquille sur la plancha.
Voilà.
La coquille devient la poêle.
J'en ai fait des petites poêles lambours, juste légèrement revenues. Un petit beurre clarifié.
Alors, comme tous les chefs qui disent une petite noix de beurre, c'est-à-dire que c'est une noix qui fait à peu près 200 grammes.
Des noisettes fraîches pour amener un peu de croquant. Et on va râper les truffes, elles sont pas chères. Le truffe.
Ah là là, ça y est.
Tous les palaces sont fermés. Je pense que tout le monde va en profiter. Cette année, c'est l'occasion ou jamais. Et on va donner un coup de chez les mots. Donc, hop, là c'est bon. On va juste légèrement saisir en haut.
Un petit coup de lance-flamme, juste pour les caraméliser. Juste.
Donc dès qu'elle commence à chauffer, il ne faut pas qu'elle soit cuite, elle est presque crue. Et on va râper nos truffes dessus.
Alors là, on parle quand même d'une tuber mélanosporum. Hein. La vraie truffe noire, qui va passer à la mandoline.
Et là, j'ai une petite crème de truffe à côté. C'est juste pour récupérer le sucre, faire un petit jus là.
Allez, on va déguster ça.
Voilà, le Saint-Jacques, topinambour, truffe et une petite noisette.
Waouh.
Virginie, elle arrive avec
un petit blanc. Un petit blanc tout simple. C'est la maison Plou, c'est mon premier vigneron. C'est une maison depuis 1508, 23 générations.
Non.
Ils sont à Chargé, près d'Amboise. Et voilà, j'aime bien ce vin, c'est vif, c'est sauvignon, c'est net, c'est, c'est frais.
Jean Grignet, ça a très envie de goûter.
Eh ben, allons-y. Ah, oui, oui.
Voilà.
Et on déguste. Voilà.
C'est bien, hein?
Ah oui, c'est très bon. Il y a du fruit, il y a un petit peu de générosité. C'est parfumé. Aucune lourdeur. Toujours une acidité présente qui rend le vin très désaltérant. C'est vraiment ce que l'éternel Jean Carmet disait.
Jean Carmet et Depardieu auraient adoré.
Exactement, ça se boit, ça se pisse et c'est parfait.
Je vous sers, Déborah.
Avec plaisir.
C'est splendide, ce plat de Saint-Jacques-Ruf avec le topinambour qui vient jouer un peu les troubles fêtes, mais au bon sens du terme.
Oui.
C'est un régal. Exceptionnel.
Merci, c'est Noël.
Précisons quand même pour nos auditeurs qui nous prendraient pour des nantis ou des privilégiés que nous sommes dans le cas présent quand même, parce qu'on mange pas de la truffe tous les jours. On parle pas souvent de truffe quand même dans l'émission On va déguster. On s'est autorisé justement ce petit écart parce que
c'est une bonne année, une très très bonne année, mais comme les restaurants sont fermés, les producteurs de truffes ne trouvent pas preneur et les cours ont quasiment baissé de 50%. Donc il ne faut pas hésiter à se faire plaisir parce qu'en plus, on sait très bien, un kilo de truffe dit comme ça, ça fait très cher. Mais pour avoir du plaisir, il suffit de quelques grammes de truffe. On achète sa truffe, on la met d'abord dans un bocal avec des œufs et puis après on la cuisine, on la râpe comme ici Nordine.
Jean Gagnès.
Je suis tout à fait d'accord, Laurent a raison, 10 grammes par personne suffisent largement. Largement pour tout
vous
un repas.
Vous en avez un peu plus que 10 grammes sur votre Saint-Jacques,
En l'occurrence, Nordine. Elle a été particulièrement généreux, mais c'est Nordine.
Et cette truffe, et en plus, c'est une bonne saison, elle est très aromatique.
Très, très bon. C'est la taille qu'il faut. C'est entre 80 grammes et 120 maximum. C'est la taille qu'il faut. Si je peux rajouter quelque chose, il faut entraîner les enfants à goûter la truffe pour qu'ils transmettent notre patrimoine derrière. Et l'avenir est aux mains des enfants. Il faut vraiment transmettre aux enfants à goûter, à les faire déguster pendant les fêtes pour cette année en plus.
Et j'en profite pour encourager nos auditeurs à acheter des Saint-Jacques françaises pour les fêtes parce que non seulement c'est une ressource marine très très bien gérée par nos amis pêcheurs de Bretagne et de Normandie, mais de surcroît c'est une campagne de pêche record le millésime 2020. Oui. Les restaurants sont de surcroît fermés. Il faut manger de la Saint-Jacques parce qu'accessoirement les prix baissent. On va rester en mer avec un autre produit emblématique puisqu'une autre entrée assez mystérieuse, énigmatique. Allez, un petit indice pour nos auditeurs. Elle est de couleur orangée, cette entrée. N'est-ce pas, Laurent Delmas?
Oui, deux lamelles nous regardent. et deux lamelles finement orangées, effectivement. Allez, on le dit, François Régis, c'est de la boutargue.
Ah,
vous allez me dire, non, c'est de la poutargue.
Oui, alors boutargue,
j'en ai marre.
B ou P, il y a un vrai débat.
On peut dire les deux, les linguistes disent les deux, il n'y a aucun problème, c'est une question d'origine, mais boutargue ou poutargue, c'est évidemment la même chose, boterga en Italie, butarga au Portugal. Donc c'est dire si c'est un produit absolument méditerranéen qui fait tout le pourtour, l'ensemble des pays du Maghreb, l'Égypte, tout ça. On trouve de la poutargue un peu partout dans le pourtour méditerranéen. Et c'est de l'œuf de mulet séché. C'est une poche d'œuf, donc une rogue, ça s'appelle comme ça, qu'on fait sécher au soleil, qu'on la sale juste. Donc
c'est un peu une salaison de la mer.
C'est une salaison de la mer. Alors, pour étendre le domaine de la lutte de la poutargue, je vous dirais que finalement, si vous avez envie d'être très snob, vous dites que vous ne mangez pas de la poutargue, mais vous mangez du karasumi. Ben oui, parce que karasumi, c'est le nom japonais de la poutargue, et croyez-moi, au Japon, ils adorent ça. C'est aussi rare et cher qu'ici, évidemment, parce que le mulet, il faut le dire, ça devient un peu rare à travers le monde. Ou la muge, hein, on dit là aussi le muge en Méditerranée, mais ça, c'est un poisson assez rare, et donc très très prisé aussi également de nos amis japonais qui adorent ça. Alors il faut dire qu'en ce moment on mange un peu du mulet mauritanien, sénégalais, brésilien qui nous écarte de nos rives en quelque sorte, alors que celle qu'on va déguster, celle que nous a préparée Nordine, vient de Corse, hein, c'est tout près de chez nous.
L'île de beauté où Nordine l'a bien à ses habitudes.
Absolument, la capitale.
Je trempe Virginie avec la Corse.
Voilà, on a quelques souvenirs communs en Corse, hein, on peut le dire.
Donc ça existe depuis 4000 ans, nous dit-on en Égypte, hein. Alors en général, on l'a, je vous le dis, c'est une femelle d'un kilo, ça fait 150 grammes d'œufs, et 150 grammes d'œufs, ça fait 120 grammes de poutargue. Vous voyez, c'est dire quand même s'il y a une grosse déperdition dans la chaîne, et que c'est un produit rare, tout à fait odorant. Alors après, décrire le goût de la poutargue, moi je ne m'y risquerais peut-être pas, mais c'est en tout cas, c'est bigrement marin, c'est évidemment un petit peu salé, mais c'est extrêmement suave. On peut le râper sur des spaghettis, par exemple. On peut juste prendre une petite tartine de beurre, des fine lamelle de poutarde dessus, comme la truffe, c'est un désis. Et puis là, le chef nous a fait son invention, qui est absolument géniale. Je vais peut-être lui laisser en parler. Hein. Il y a deux œufs qui nous regardent, il y a deux tranches de poutarde qui nous regardent. Et c'est le mélange œuf-mayo. Alors, mais attention, œuf-mayo citronné. C'est-à-dire que le petit plus de Nordine par rapport à beaucoup d'autres recettes, c'est de rendre cette mayonnaise vive, un petit peu acidifiée comme ça avec le citron. Donc on a en plus un mélange d'œuf terre-mère formidable. On a l'œuf du mulet, l'œuf de la poule. Et ben voilà, c'est ça le plat de Nordine et je trouve c'est un plat signature, c'est un plat merveilleux.
Qu'est-ce qu'il parle bien de gastronomie, ce Laurent Delmas? Il faut vraiment qu'il quitte l'univers du cinéma.
Certains le disent.
C'était cette idée-là justement de faire une association entre un œuf de mer et un œuf de terre ou pas du tout?
Absolument, et surtout les mélanges, le voyage nord-sud qui moi ça me tient à cœur. En Tunisie on mange la boutargue séchée dans les fenêtres à la goulette avec un filet de citron. À Paris, on mange notre œuf maillot, c'est les petites entrées du bistrot, de rien du tout. Je voulais associer les deux, on peut encore faire ce pont.
Déborah, elle vous parle, cette composition autour des œufs?
Moi, j'adore. Et puis surtout, l'œuf, il est mollet, en fait. C'est pas du tout un œuf dur. Le coulant avec la poutarde plus la mayonnaise, mais c'est juste, c'est à se rouler dedans, c'est une merveille.
Et ce que j'apprécie beaucoup en plus, c'est l'acidité de cette mayonnaise, qui me rappelle moins un peu en tant que, moitié corse. Ces petites gouttes de citron qu'on mettait sur la boutargue. La boutargue, elle a aussi besoin d'un petit coup de fouet acide.
Parce qu'elle est grasse, un peu huilée quand même.
C'est ça.
Et cette boutargue qui est noble, elle est dans un laiton qu'il y a des endroits, il y a 6 mètres, 4 mètres de profondeur. Donc elle n'est pas vaseuse. Et elle est pêchée au laiton, séchée au laiton. Et sortir comme une maillée, il y a une production très, 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 très réduite. C'est le laiton d'Orbine et Diane.
Et en Corse.
Voilà. En Corse. Et on fait un couscous aussi quand on pêche les boutargues. On fait la fête du début de pêche des boutargues. Un couscous au millet qui est très très bon.
Et parce qu'évidemment, la chair de ce poisson, on la récupère et on fait la fameuse graine et le mulet pour paraphraser. C'est ça, absolument.
Absolument.
Et c'est le couscous tunisien par excellence. Le couscous au mulet, le couscous de poisson.
Voilà, on fait ça tous les ans, fin août, début septembre en Corse, pour le début de la fête des boutargues.
On se régale définitivement à la table d'à mi-chemin, le bistrot de Nordine et de Virginie Labia. Merci encore les amis pour votre accueil. Quel plaisir ces œufs à la boutargue. Ou boutargue, on n'a toujours pas clos le débat.
Il n'y a pas de débat.
Moi j'ai des chocolatines.
Dans un instant, énorme découverte. On peut appeler ça une curiosité culinaire. Il y a un indice, sa couleur.
C'est mordoré, voilà.
C'est presque. Ça, hein, voilà, c'est incroyable. Il y a de la viande et c'est végétal en même temps.
Mais oui, absolument.
Et on espère que le grand choix vin de notre ami Jérôme Gagnès va fonctionner avec ce plat tout à fait mystérieux.
Bah, j'espère aussi.
Et puis évidemment,
j'ai tout fait pour.
Et nous avec.
On passera au dessert avec Déborah Dupont, notre libraire gourmande, qui va se prendre pour Gaston Lenôtre.
Tant qu'à faire. Walking down the street or walking on the moon. What's it matter? Out of my cocoon. Step into the sunshine. Man, it feels good. Birds and bees jamming. A theme for the neighborhood. Think you could. Birds and bees jamming, their tune for the neighborhood. Smiling skies with a chance of yes.
Well, he's been through a lot now, more than you and me. Let's give him what we got, that's who you want to be.
C'était Hills, le groupe qui signifie en français Hills, c'est anguille.
Hein. Anguille.
Voilà, on n'est pas très loin du mulet et de l'univers de la mer qu'on explore avec notre ami le chef Nordine Labiat pendant que votre chien est en train de me mordiller les les volets sous la table.
Fruit de la confinement, Roméo.
C'est ça. Et le titre de Hills, c'était Are We Alright Again. Vous êtes bien ou pas, les amis?
On You're alright.
On est au top.
Alright Again. Ouais.
On va déguster sur France Inter.
Voilà. Nous étions en Méditerranée avec ces œufs à la boutargue signés Nordine Labiat. On y reste avec le vin surprise, un vin un peu festif, on peut le dire, un vin même assez exceptionnel que nous a choisi Jérôme Gagnès.
Alors exceptionnel, ça c'est absolument certain.
Ah.
Pas seulement parce que il est dans une gamme de prix un petit peu supérieure à celle que je propose habituellement.
C'est vrai. On fait une exception pour cette émission de fête.
Exceptionnel à plus d'un titre. D'abord parce que c'est une appellation. Alors, nous parlâmes de cette appellation il y a quasiment un an et demi, au mois de septembre 2019, lorsque nous étions à Marseille.
Et vous étiez mis beaucoup de gens à dos.
Non, j'ai que des amis, moi. Et donc, là, on parle d'une appellation absolument exceptionnelle qui s'appelle Bandol. Nous en avons donc déjà parlé. Je reviens à Bandol pour une raison bien particulière, c'est que j'ai visité une propriété vraiment différente et vraiment à part. Ça s'appelle le domaine de la Bégude. On m'avait parlé souvent de ce domaine, j'en avais goûté les vins. J'en appréciais particulièrement les rosés, qui donc, à l'inverse de ce qui se pratique dans cette région, qui est passée championne du monde dans l'exercice de la bibine à glaçon, eh bien, il y a donc un domaine de la Bégude qui fait des rosés exceptionnels. Et en fait, la recette est simple. Alors, je donne un petit tuyau à nos amis provençaux. C'est finalement pas très compliqué. Il faut des raisins mûrs. Et ensuite, on les met dans un pressoir. On presse gentiment, lentement, faiblement. On obtient un jus qui est à la fois légèrement coloré. Alors, ceux qui sont allergiques à la couleur et qui veulent des vins transparents, ben, passeront leur chemin. Pour les autres, ils poursuivent sur ce chemin. Et donc, ils obtiennent un jus avec des arômes, avec un parfum. Nous venons de déguster le 2013
extraordinaire
de l'irréductible, puisque nous parlons du domaine de la Bégude, comme je l'ai dit. L'irréductible en 2013, rosé. C'est la grande cuvée de rosé du domaine. C'est un vin qui est absolument extraordinaire. Et donc, Guillaume Tari, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avec Soledad, son épouse, eh bien, produisent un rosé absolument admirable. Un mot sur le domaine qui est particulier. Il est assis sur le haut du massif de la Sainte-Baume, entouré de garrigues. Il y a là quelques 500 hectares, au milieu desquels se trouvent 55 parcelles de vignes. Et on y produit essentiellement du Mourvèdre, à plus de 70%, dans des cuvées qui s'appellent la Bégude, la Brûlade, et puis les deux rosés, et ainsi qu'un premier vin. Il s'agit ici de s'apercevoir que quand on se promène dans ces chemins à travers la garrigue, on tombe de ci, de là, sur une petite parcelle de vigne, sur une restanque. Un travail de forçat qui a été entrepris par Guillaume Tari lorsqu'il a repris ce domaine en 1996. Il n'y avait à cette époque que 7 hectares et demi. Il y en a maintenant une trentaine. C'est vous dire le travail de titan que ça représente. Pas de remodeler la montagne, simplement de défricher, de planter des vignes. Et avec, en plus de ça, un souci de la qualité qui a poussé Guillaume Tari à entreprendre une plantation bien particulière, c'est-à-dire qu'il commence par planter ce qu'on appelle un raciné, c'est-à-dire le porte-greffe. Le porte-greffe, c'est ce qui va porter la greffe, le greffon qu'on va venir greffer. Eh bien, ce porte-greffe, il le plante et il le laisse tranquille pendant 3 ans ou 4 ans, ce qui lui permet de développer un profil racinaire en profondeur, solide, puissant. Et ensuite seulement, il vient greffer, c'est-à-dire en l'occurrence bien souvent du Mourvèdre. Il a un conservatoire de 150 variétés de Mourvèdre différents. C'est le plus grand conservatoire de Mourvèdre qu'on connaisse. Ça donne un résultat avec des vieilles vignes et surtout avec des vignes qui sont très solides, qui lui permettent de faire des vins. Alors, ce que vous êtes en train de déguster, là, c'est le millésime 2018. On parlait d'Hidalgo tout à l'heure. Je parlais pas de notre maire de Paris. Je parlais bien d'un Hidalgo, d'un fier espagnol qui se trouve ici transplanté en Provence avec la fierté qu'il caractérise, c'est-à-dire un port assez haut, une certaine morgue dans la jeunesse, mais beaucoup de fond, des vins qui ont un équilibre absolument extraordinaire. Et c'est particulier à la Bégude parce qu'on est entre 350 et 420 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'on bénéficie de la fraîcheur nocturne. Mmh. Donc, on adoucit la puissance de la chaleur méridionale. Il en résulte un vin aux notes de fruits intenses, aux épices, des notes de cuir. On a beaucoup de fond, il y a de l'équilibre. C'est un vin avec des tanins qui sont soyeux, présents certes, mais soyeux, parce que bien arrondi et bien assoupli. Et voilà un très beau vin. C'est un domaine absolument hors norme. Il faut absolument aller visiter la Bégude et se délecter de ces magnifiques vins, que ce soit le rouge ou le rosé.
Quel équilibre !
Ouais.
Pas de lourdeur, hein ?
Non, bien sûr.
Du soyeux, mais, ouais, mais de la fraîcheur.
C'est une belle apologie du Mourvèdre, qui est parfois, c'est pas bien connu, qui rentre dans la composition du Châteauneuf du Pape, notamment. Aussi. Et on retrouve, je trouve, ces accents-là, très solaires, caillouteux aussi, bon, ouais. Voilà, un petit peu. Mais vraiment, oui, c'est magnifique.
Ah ouais, voilà, splendide. Ouais. Domaine de la Bégude, on était sur un
Bandol
millésime 2018.
Rouge 2018, domaine de la Bégude, et ça vaut 28€ au domaine.
D'accord. Salez-vous. Donc c'est un vin qui reste tout de même festif.
Oui, c'est un vin pour un très beau repas de Noël.
Voilà. Merci. Un rosé de Noël. L'enjeu aujourd'hui est de savoir si ce Bandol 2018 du domaine de la Bégude va pactiser avec ce plat mystère. Oula, un objet volant non identifié arrive et atterrit sur cette table. De quoi s'agit-il ?
Molochia. Molochia, c'est royaume, roi, plat de roi.
Plat de roi. Alors, là, on parle d'un plat vraiment que pas mal de nos auditeurs connaissent, mais alors pour d'autres, c'est l'inconnu total. On est sur un plat oriental du nord de l'Afrique et de l'Orient, plus globalement.
Égypte, Palestine, Tunisie, Liban, Libye, Moyen-Orient, tout ça, effectivement, on connaît la mourria. À la base de la mourria, il y a une herbe qui s'appelle la corette potagère ou mauve des juifs. J'ai appris ça récemment.
C'est ça, mauve des juifs.
C'est un très très beau nom, mauve des juifs. On la connaît aussi cette plante dans un environnement quotidien parce que c'est avec elle qu'on fait de la toile de jute, figurez-vous.
Non.
Mais si, bien sûr.
Ça, je l'ignorais.
Alors, on va pas manger de la toile de jute, heureusement, mais on va manger de la corette potagère autrement qui fait cette espèce de civet. Ça ressemble vraiment à un civet.
Alors, un civet sans vin rouge.
Un civet sans vin rouge, sans lièvre, mais un civet quand même. Et effectivement, alors Nordine le fait au paleron, hein, paleron de bœuf, qui vient en direct de son voisin, le génialissime boucher Hugo Desnoyers.
Ah, rien que ça.
80 mètres.
Hugo Desnoyers, oui, il est à côté.
Depuis 22 ans, Virginie. Virginie a démarré à travailler local, avec Hugo, avec la cave des papilles, avec des maraîchers des coins.
Et c'est son paleron qui vous sert à préparer cette mloukhia.
Oui.
Alors la corette, c'est très 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 difficile, je trouve, à définir ce que ça donne en bouche. Moi, c'est entre la blette, l'épinard, l'oseille, tout ça est assez proche, et en même temps, c'est la corette. C'est-à-dire, c'est vraiment très spécifique, très singulier. Au passage, je le dis, parce que comme ça, nos amis diététiciens seront contents, c'est la plante où il y a le plus de magnésium. Ah. Manger de la corette, vous aurez du magnésium.
Ça va faire plaisir à Gagnès.
Parce que t'as des amis diététiciens, toi.
Ça m'arrive d'en rencontrer. J'aime l'exotisme, Jérôme. Il faut s'interroger, il faut s'intéresser à des choses qu'on connaît pas par ailleurs.
On est vraiment sur un plat de couleur noire. C'est étonnant. Déborah ?
C'est noir, mais effectivement, avec des reflets vert mordoré. On sent quand même que c'est une cuisson très, très longue.
Ouais.
14 heures, on peut y aller jusqu'à 14 heures.
Mais facilement, et la faire réchauffer, c'est comme la daube, hein, ça, cet aspect-là. Alors, ce qui est très étonnant, la première fois que j'en ai mangé, c'était évidemment chez Nordine Labiade, ici, à mi-chemin, et j'ai dit, mais on a oublié les légumes, quoi, avec, il n'y a pas de légumes, parce qu'en bon français, il y a une viande, une sauce et des légumes. Ben non, en fait, ça se mange avec du pain, et ça permet de saucer il faut saucer.
Il n'y a pas de légumes, mais il y a du végétal.
La courette, elle est moulue, il y a beaucoup de poudre, donc le végétal, il est là, elle est très très végétale et très verte. Ça sent très bon, c'est pourquoi j'ai choisi ce plat à partager ici avec Virginie, parce que ce plat, on ne peut pas les cacher. On démarre Amlechia tellement si long, tellement ça parfume tout le quartier, qu'on est obligé de partager avec les voisins. À la fin, il ne reste plus rien.
Parce que l'odeur, le parfum est envahissant, en fait.
Mais à la base, ce que j'adore dans ces plats, c'est les trois ingrédients. L'huile d'olive, par le romain, la courette et le bœuf. De préférence, un bœuf vieux, une vache vieille qui a déjà donné son lait.
Formidable. On ne reviendra jamais assez sur cette couleur totalement intrigante. On est dans un plat quasiment gothique, d'une noirceur abyssale. Pour moi, il y a vraiment des notes de métal.
Absolument.
Oui, c'est métallique, une légère amertume verte, verte-noire.
Alors, on peut, c'est un plat qui vertébrant, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut ne pas l'aimer du tout. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des gens qui adorent la mouria et puis les autres. Bon, voilà, c'est comme ça. Le monde se divise en deux, mais c'est pas grave. Il faut assumer ses goûts.
J'attends
et assumer sa spécificité.
On attend Laurent Delmas avec impatience l'avis de Jérôme Gagnès.
Jérôme Gagnès, oui.
Alors, c'est sa première mouria. C'est l'un des plats les plus étranges qui nous ait été donné de goûter.
Ben justement, moi, j'aime beaucoup le caractère très végétal de ce plat. Ouais. À la fois, il y a de l'amertume. On a vraiment l'impression d'avoir un parfum d'oseille sans en avoir l'acidité, ce qui est assez, finalement, perturbant pour un franchouillard comme moi. C'est très végétal.
C'est très tombé. Il y a quelque côté terre, que j'adore. Les racines, le terre, on parle de tout ce qui est tourbé, whisky, truffe, autre chose. Et moi, c'est côté tourbé, dis-donc, que j'adore.
Capiteux, voilà. Absolument.
Proche du sol, de la terre, de l'homme, le temps, du partage, le parfum. Et c'est pour ça que je voulais partager un plat de mémoire. Tous les gens qui sont partis, ils adoraient ce plat. Tous les familles juives tunisiennes, c'était la Madeleine des Proust, mais vraiment, ils rampaient, ils nous appelaient même 3 mois à l'avance pour avoir la amlouria.
Et c'est un plat qu'on trouve dans des familles musulmanes, dans des familles juives, mais qu'on ne trouve pas au restaurant. Vous le faites à mi-chemin, mais c'est un plat qui est très compliqué à trouver, très compliqué de déguster en dehors des familles qui ont vraiment ce plat comme matrice mémorielle, si j'ose dire. Comment se passe la rencontre entre la amlouria d'Afrique du Nord et de l'Orient et ce vin de Bandol?
Ça.
Ah, problème.
Non, pas du tout.
Non, moi je crois pas.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, ce vin, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Ce vin a une capacité absolument stupéfiante à s'accorder avec un très, 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 très grand nombre de saveurs qui sont extrêmement différentes les unes des autres. En fait, ce vin vient épouser les plats, vient épouser le plat, et ça donne un mariage à la fois charnu, méditerranéen, avec une très grande gourmandise.
Bon, ça se passe bien.
Oui, ça se passe très très bien. Ouais.
Ça pactise.
Ouais.
Je vous pose une question, Laurent Delmas. Aïe. Évidemment, elle n'est pas totalement anodine. Comment le grand Gérard de notre cinéma français, le Depardieu, est-ce que vous pensez qu'il pourrait être de taille à déguster cette mloukhia?
Écoutez, oui, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit. D'ailleurs, il s'est fait récemment, pendant le confinement, choper sur un franchissement de ligne blanche à deux pas d'ici en venant déguster un couscous. Je l'inviterais plutôt à venir manger le couscous de Nordine. Ça serait plus inspiré pour lui.
Alors, je dis ça évidemment, mon cher Laurent, parce que vous avez signé un livre événement Depardieu hors norme, avec une préface quand même, ce qui n'est pas rien, de Bertrand Tavernier.
Et justement, devant sa préface, Bertrand Tavernier a cette belle formule. Dès le départ, il dit Depardieu dévore la pellicule comme Obélix les sangliers.
C'est exactement ça.
Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, il a une filmographie de dingue. Il a joué Vatel, on peut le dire, même si le film n'est pas exceptionnel, mais il a joué Vatel. Et puis, effectivement, il a joué Obélix. Et moi, je l'ai vu sur un tournage, pas sur un tournage d'Obélix, mais sur le tournage d'un film de Delépine et Carverne qui s'appelait Saint-Amour. Bon, dont il était beaucoup question de vin. C'est le film préféré de Jérôme Gagnès. Et à 10h du matin, j'ai assisté à cette scène incroyable où un cuisinier est arrivé avec un grand plat au four et au milieu un poulet entièrement rôti, mais un gros gros poulet vraiment. Il a frappé à la porte d'une caravane, ces caravanes qu'on voit pour accueillir des acteurs pendant le...
Vous l'avez vécu cette scène?
Oui, je l'ai vécu vraiment. Et donc le cuisinier tape à la porte, la porte s'entrouvre, je ne vois pas qui est derrière, et le cuisinier donne le plat et puis s'en va. Et j'ai demandé au cuisinier, mais qui est derrière la porte? Et on m'a dit, ben, c'est Gérard Depardieu. Et il était 10h du matin, il a mangé son poulet, et à midi 15, il était en train de demander, mais quand est-ce qu'on mange? Voilà, donc bon, c'est ça, Gérard Depardieu. Moi,
c'est l'équivalent du croissant du petit matin. Mais,
tout à fait. C'est, je trouve ça extraordinaire. C'est clair. Ah, oui, c'est
Gérard Depardieu, un ogre sur le plan évidemment professionnel, hein, 200 films en 50 ans de carrière, et un ogre sur le plan gastronomique.
Mais oui, parce qu'on sait qu'il il a des vignobles, château de Digné, Agnan, enfin, etc. Il a acheté des arpents d'olivier. Il a eu sa rue quasiment à un moment à Paris où il avait tous les commerces de bouche. Exactement. Donc, et puis quelques publicités en plus pour quelques produits italiens, comme vous le savez. Donc voilà, donc c'est une carrière quand même très très tournée vers la cuisine, la gastronomie, le plaisir de boire et tous ces beaux souvenirs avec Jean Carmé aussi. On en parlait tout à l'heure, les souvenirs viticoles et vignerons avec Carmé, c'est des magnifiques moments de convivialité, c'est clair.
Absolument. Et vous dressez un panorama épatant de 50 ans de carrière, près de 200 films. Gérard Depardieu, hors norme. Par Laurent Delmas, avec une préface de Bertrand Tavernier, aux éditions Larousse. Pas de repas de fête, évidemment, sans escale finale autour du sucré. Et là, c'est Déborah Dupont qui entre en scène.
France Inter. On va déguster.
Pour le traiteur, j'ai pensé qu'on pourrait prendre le nôtre.
Pourquoi pas? Et qui c'est?
Comment?
Le traiteur. Qui c'est?
C'est le nôtre. Mais si vous préférez prendre le vôtre...
Non, on n'a qu'à prendre le vôtre.
Parfait.
Alors? C'est qui? J'ai compris. Vous voulez pas le dire?
Il est superbe ce dessert, Déborah Dupont. Félicitations. Alors, c'est quoi votre traiteur, le vôtre?
Non, mais moi, c'est toujours le nôtre, hein, en toute simplicité.
Gaston Lenôtre, le grand pâtissier des années 70.
Tout à fait. Gaston Lenôtre qui avait publié à cette époque aux éditions Flammarion déjà, puisque Flammarion, c'est l'éditeur des chefs. Plusieurs ouvrages, dont un Faites votre pâtisserie comme le nôtre, qui avait marqué son époque.
Et qui était un véritable best-seller.
Qui est un énorme best-seller et qui était épuisé depuis des années. Et les éditions Flammarion viennent enfin de le rééditer, en le toilettant légèrement pour l'adapter au goût du jour.
En mettant moins de beurre et moins de sucre, c'est
un
ça?
Un petit peu moins de beurre, un petit peu moins de sucre.
Là, ça va pas plaire à Gagnès.
Mais là, c'est vraiment consternant ce genre de toilettage.
Alors, c'est pour ça que j'ai choisi la recette de bûche tradition. Donc là, rassurez-vous, il y a tout ce qu'il faut en sucre. Je me suis rappelé en fait la conversation qu'on avait eue l'année dernière au sujet des bûches. Et je savais que ces messieurs étaient unanimes autour de la bûche crème au beurre.
Bien sûr.
Donc là, j'avoue, j'ai même sorti la décoration traditionnelle.
Attendez, parce que... décrivez quand même cette bûche qui est carrément extraordinaire. Alors là, on a vraiment affaire
à une bûche.
Non, mais un trompe-l'œil de bûche de bois.
Non, mais là, la bûche, honnêtement, la déco est dingue parce que la crème au beurre qui est au-dessus a été striée de telle sorte que cela ressemble à de l'écorce.
C'est une bûche, je
donc c'est absolument.
Oui, mais une bûche réaliste.
Non, mais c'est un travail absolument admirable. Et on ne parle pas évidemment des ravissants. Petite décoration que Déborah a mise sur la bûche. Donc, on a un petit bonhomme de Noël de type convexe et concave. Enfin, on ne sait pas très bien.
C'est un peu votre sosie.
Il y a des angles. Non, parce qu'il est anguleux. Moi, je suis tout rond.
Ah, pardon.
Donc, lui, il est anguleux.
On a les petits champignons en plastique.
Il y a les petits champignons. Il y a un petit renne.
Le sapin.
Non, c'est admirable.
Vous n'aurez pas la recette en direct pendant mes trois. Parce que tout simplement, là, sinon, je rajoute à peu près une heure d'émission rien qu'à vous dire l'intégralité.
Non, c'est vrai, c'est compliqué.
Alors, oui, clairement, on n'est pas sur un livre pour débutants. On est sur un livre qui s'adresse effectivement à des personnes qui maîtrisent déjà un petit peu la pâtisserie.
Même pas peur.
La bûche tradition, donc vous avez quand même un biscuit au café qu'on va tartiner avec une crème pralinée avec des noisettes caramélisées. Qu'on va rouler, qu'on va faire prendre au froid. Ensuite, dans la gouttière à bûche, vous allez d'abord mettre une ganache au chocolat, puis une mousse au chocolat. Vous allez rajouter votre roulé. Vous allez avoir un petit socle en croustillant. Enfin, qu'on soit bien clair, ça fait deux jours que je suis sur cette bûche.
Un petit peu, mais c'est un boulot de malade mental.
Mais c'est extraordinaire.
C'est une recette de fou furieux.
Donc, jeu de texture.
Elle est complètement décrite en détail sur le site, avec un petit bémol que j'explique aussi. Il est indiqué qu'il faut un moule de 18 cm de long qui n'existe pas, tout simplement. C'est-à-dire, je pense que les chefs...
Il existait peut-être à l'époque de Gaston Lenôtre dans les années 70.
Ou sinon, il s'agit, et comme c'est souvent le cas dans les livres professionnels ou d'origine professionnelle, il s'agit en fait d'une gouttière de 50 cm et ils ont coupé pour faire une taille 6 personnes.
Comment on fait alors?
Alors en fait, j'ai fait des règles de 3 dans tous les sens pour réussir à adapter cette bûche et à faire que ça tienne dans une gouttière normale de 30 cm qu'on trouve effectivement beaucoup plus facilement.
Et rassurez-nous, vous avez adapté la recette pour nos auditeurs.
Tout à fait, j'ai adapté la recette pour les auditeurs. Donc en fait, j'ai fait tous les calculs de toutes les masses en sachant que c'est une recette à tiroir. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la crème au beurre, vous dites j'ai fini, reste que la crème au beurre. Non, la crème au beurre, il faut dedans une crème anglaise et une meringue italienne. Donc on repart dans des...
Oh la vache.
Ouais, franchement.
Donc c'est un marathon technique.
C'est un marathon technique, mais je sais pas, ça vaut le coup, moi, parce que moi, je l'ai toujours pas goûté, du coup.
Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
C'est très beau à voir.
Le biscuit est légèrement aromatisé au café. Normalement, ça doit être plutôt pas mal.
Ah, ouais. C'est bon. Non, c'est très bon, je valide. Ça,
c'est très, très bon.
Je valide. Une bûche de Gaston Lenôtre pour faire revivre ce grand pâtissier des années 70 qui a quand même été l'un des grands créateurs de notre patrimoine sucré.
Et donc je suis vraiment ravie que ce livre ressorte parce qu'on va retrouver tous les classiques mais qui ont quand même été modernisés et qui ont été adaptés. Juste réellement, il faut maîtriser un petit peu la pâtisserie pour se lancer là-dedans, mais je pense que ça en vaut la peine.
Ah ouais, ça en vaut la peine, le résultat est éblouissant.
Une merveille.
Bravo.
Est-ce que votre carnet de commandes est plein?
En plus d'être libraire à la tête de la librairie commande, Déborah Dupont se reconvertit aussi en pâtissière. Elle livre des bûches pour Noël et pour le jour de l'an. C'est une bonne nouvelle.
C'est là où j'ai acheté mon premier livre de cuisine.
Chez Déborah Dupont.
Oui.
Alors à l'époque, c'était pas moi.
Et c'était quel livre?
C'était le CAP de cuisine, le premier livre.
La cuisine de référence, sans doute, de Monsieur Mincent chez BPI, comme tous les cuisiniers qui apprennent le métier.
Et comme une très belle surprise sucrée n'arrive jamais seule, le bouquet final de Virginie.
De la patronne.
Oh là là.
Voilà. Une tarte.
Alors, je vous ai préparé.
Une tarte aux poires.
C'est de la pâte crassane, poire une variété ancienne.
Bien sûr.
Je fais ma pâte sablée depuis l'âge de 12-13 ans, toujours la même pâte.
Comment vous la faites, votre pâte sablée en amont?
125 g de beurre, un jaune d'œuf. 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'eau, 2 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à soupe d'huile. Et après, je mets la farine au pif, la bonne mesure.
C'est
et
ça.
Après, je sens qu'elle est bien et ensuite, je la laisse reposer. Après,
de toute façon, la bonne nouvelle, Virginie, c'est que vous avez rédigé la recette de votre tarte pour nos auditeurs sur franceinter.fr à la page on va déposer.
Alors, je vous ai préparé aussi un phare, le phare de ma grand-mère, le phare breton, donc au pruneau. Avec, j'ai dû mettre 5 pruneaux, parce que ma grand-mère disait,
je vous rassure, il y a des Bretons qui en mettent carrément pas. Hein.
Ah ben, voilà, il faut qu'il y ait une personne qui n'ait pas de pruneaux. Enfin, ça peut arriver, il y a une farce.
C'est vrai.
C'est pas un gâteau aux pruneaux, à dire grand-mère.
Voilà, c'est pas un gâteau aux pruneaux, vous les Parisiens, vous mettez plein de pruneaux, talali.
Oh là là,
parce qu'ils sont gros, les pruneaux.
Il y a un côté flan un peu mastoc et aussi.
Délicieux,
d'accord.
J'ai pas une pelle à gâteau.
Quelle splendeur.
Oui, c'est très flan.
Virginie, la recette de ce phare, à part le fait qu'il y ait 3 pruneaux.
Alors, 150 g de sucre, 150 g de farine,
ouais.
4 œufs, un après l'autre.
Oui, on mélange à chaque fois.
On mélange à chaque fois. 3 quarts de litre de lait, tiède, et au four, 3 quarts d'heure.
Okay, hyper bon. Qu'est-ce qu'on parle de pronoms?
Qu'est-ce qu'on pense, Gagnès?
Il a presque fini sa part, c'est que ça va bien.
Oh là là, quelle splendeur. Et on n'a pas encore goûté cette tarte, mais là, c'est pour dans un instant. On est obligé de se quitter, malheureusement, mais on se quitte sur une petite note liquide, puisque vous nous avez réservé une ultime surprise, Virginie.
Oui, alors ça, c'est un coteau de Saumur. C'est un vin rare maintenant, puisqu'ils ont arraché... à l'époque, beaucoup de vignes pour planter du Saumur Champigny, du Cabernet Franc. Et donc là, c'est le domaine Chancel, Lydie et Thierry Chancel, des gens que je connais depuis 30 ans, que j'aime beaucoup, une vraie maison familiale et qui continue. Et donc c'est du Chenin, bien sûr, mais c'est une très belle acidité, contrairement à ses cousins Coteau de l'Aubance, Coteau du Layon, Quart de Chaume, etc. C'est des sols argilo-calcaires, donc il y a une belle acidité qu'on aime bien dans ces vins sucrés et doux. Et
vous savez quel grand cinéaste goûtait tout le temps du Thierry Chancel?
Vous me laissez l'apprendre.
Claude Chabrol. Ah, ouais. Quel régal d'avoir partagé ensemble ce repas de fête. Allez, on trinque. Merci beaucoup, Nordine. Merci, Virginie, pour votre accueil.
Joyeuses fêtes à tout le monde.
Un immense merci pour ce festival de saveurs entre Tunisie, Paris, la Méditerranée. Merci les copains.
Merci Déborah pour votre belle, magnifique bûche.
Franchement, c'était un moment d'anthologie qui restera dans les mémoires dont on va déguster. Je rappelle quand même le titre, Nordine, de votre livre. Une très belle idée de cadeau de Noël. D'autant que toutes vos recettes, il y en a une centaine, sont parfaitement praticables. Couscous pour tous. Le livre de Nordine Labia, avec la complicité de sa femme Virginie, paru aux éditions Solar. Le nom du photographe?
Fabrice Vegas.
Au nom de toute l'équipe dont va déguster, Jérôme, Laurent et Déborah en sont les représentants aujourd'hui. Je souhaite à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices un très joyeux Noël.
Noël.
Malgré
joyeux
évidemment Noël. Les restrictions auxquelles nous faisons face, essayons de profiter, de mettre nos sens en éveil et surtout de ne pas manger idiot. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant une heure. La semaine prochaine, on dresse le bilan culinaire et gastronomique de l'année 2020 avec des coups de cœur, des lectures nourrissantes, de bonnes adresses. Elvira Masson, Dominique Hutin, Antoine Gervais et Arnaud Daguin seront autour de la table dont va déguster. Et puis les copains, on se retrouve en 2021 en forme. Laurent, Déborah, Jérôme.
En pleine forme.
Avec plaisir.
Bonne fête de fin d'année.
Bonne fête. Très joyeux Noël à tous.
Merci Nordine, merci Virginie.
Bon Noël à tous.
À très bientôt.
Merci beaucoup.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.